Émile Souvestre, Les récits de la muse populaire. La chasse au trésor. Chapitre 1er. Maître Jean le sourcier. Une tradition arabe, transmise par les pâtres ou les contrebandiers, a franchi les Pyrénées et s'est conservée dans le Pays basque. Les bergers, qui conduisent leurs troupeaux le long des gaves de la montagne, racontent encore aujourd'hui que, bien avant Jules César, existait un bronche ou sorcier qui s'éleva dans les airs sur un dragon qu'il avait soumis et arriva ainsi au rocher où dormait Débrua, l'esprit du mal. Il l'entoura 9 fois d'une chaise magique et l'obligea à lui faire connaître le roi des talismans, qui donne plaisir, richesse et puissance. Débrouha déclara au sorcier que, pour tout obtenir sur terre, il fallait se rendre maître de la mouche jaune de safran, laquelle se montrait tous les soirs dans un port des Pyrénées qu'il lui nomma. Il avertit seulement que, pour la prendre, il fallait tresser une résille avec les 3 cheveux les plus près du cerveau et la tremper dans la sueur et dans le sang. Le bronche fit ce qui lui avait été recommandé et ne tarda pas à voir paraître la mouche jaune de safran. Il la poursuivit 7 jours et 7 nuits à travers les rocs, les halliers et les torrents, leur laissant autant de lambeaux de ses habits et de sa chair que les brebis, avant la tonte, laissent le flocon de laine au buisson. Enfin, il la vit se poser sur la cabane d'un berger qui était monté dans les pâturages. Il essaya en vain de parvenir jusqu'à elle, et tous ses efforts ne purent décider la mouche à reprendre son vol. N'ayant donc plus d'autres ressources, et s'étant assuré que personne ne pouvait le voir, il mit le feu à la cabane, et la mouche jaune de safran s'envola. Le bronche la suivit jusqu'à une prairie où elle alla se poser sur une touffe de fenouil. Comme il ne pouvait s'approcher d'une plante qui fait la guerre aux sorciers, il resta à quelque distance. Alors un jeune berger, qui gardait des chevaux dans la pâture, aperçut la mouche et la prit dans son bonnet. Le bronche hors de lui poursuivit l'enfant, le frappa de son bâton et le tua. Mais au moment où il saisissait la mouche jaune de safran, elle lui fit une piqûre qui le rendit triste pour le reste de ses jours. Devenu plus riche que les laminas, les fées des gaves, il tomba dans la même langueur que ceux qui ont été recommandés par leurs ennemis à Saint-Séquerre, et il mourut lentement, comme si l'on eût coupé l'amère racine de son cœur. Les bergers basques ne disent pas ce qu'est devenue depuis cette époque la mouche jaune de safran. Mais nous la retrouvons partout dans l'histoire du monde. N'est-ce pas elle que cherchaient les millions de combattants qui se précipitèrent sur la société antique comme une avalanche d'hommes détachés du Nord? N'est-ce pas elle encore que croyaient atteindre les hardis compagnons de Pizarro et de Soto et de Cortés lorsqu'ils s'enfonçaient au galop de leurs chevaux dans des régions ignorées où ils fauchaient les nations comme des blés mûrs? Elle que voyait sur la mer nos fabuleux flibustiers dont les blessures et la mort étaient officiellement cotées à cette bourse sanglante de la guerre? N'est-ce pas elle enfin que poursuivent de nos jours les pionniers de la Californie et tous les chercheurs de trésors? Depuis les orpailleurs du Mexique et les money diggers des Bahamas jusqu'aux fouilleurs de ruines de nos campagnes. La mouche magique des traditions pyrénéennes n'a point cessé un seul instant et ne cessera jamais d'attirer ici-bas tout ce qu'il y a de sensualités avides, vagabondes, témérités. Quiconque sent en lui la puissante impulsion des désirs inassouvis, la cherche des yeux, la poursuit, comme le bronche à travers les précipices, s'efforce de la saisir dans quelque piège pour lequel il a épuisé son cerveau, sa sueur et son sang, brûle pour l'atteindre la chaumière de l'absent, brise l'existence de l'abandonné, et périt misérablement au milieu de son triomphe, consumé par l'inguérissable fièvre de la satiété. Et que l'on ne croit pas cette avidité particulière à un certain temps ou à certaines races. Nous la retrouvons toujours et partout. Si les païens ont la conquête de la toison d'or et du pommier des Hespérides, les hommes du Nord la découverte du Sampo, talisman souverain qui procurait toutes les richesses, l'Orient, ses anneaux magiques et ses lampes d'Aladin, les chrétiens ont eu la recherche du Saint Graal, ce vase divin que le sang du Christ avait rendu fait et qui assurait à son possesseur l'accomplissement de tous ses désirs. La science elle-même a entendu, dans ses retraites austères, les bourdonnements de la mouche jaune de safran. Elle s'est oubliée pendant plusieurs siècles à la recherche du grand œuvre. Aussi loin que la tradition peut remonter enfin, nous trouvons cette soif de la richesse comme une maladie générale et héréditaire. C'est à elle qu'il faut attribuer la croyance populaire au talisman et au trésor. Je faisais ces réflexions tout en suivant la route de ma mère au Mans et me dirigeant vers le bourg de Saint-Côme. Une butte située près de ce bourg est connue dans l'histoire sous le nom de Motte d'Igé, avait été signalé depuis longtemps dans le pays comme renfermant d'immenses richesses. Les Anglais y avaient bâti au XIIe siècle une forteresse où ils avaient tenu garnison jusqu'au traité de Brétigny. Forcés alors de partir, ils avaient enfoui, dit-on, dans la colline des trésors dont ils n'osaient se charger et qu'ils espéraient répandre à la prochaine guerre. Cette tradition avait provoqué à plusieurs reprises des recherches dans la Motte d'Igé, devenue Mont-Jallieu. De nouvelles fouilles, annoncées par les journaux en 1844, avaient éveillé ma curiosité et j'étais parti avec le projet de voir une de ces chasses au trésor. J'avais heureusement dans le Maine, pour me guider et m'instruire, un ami de nos plus charmants écrivains, esprit choisi mais nonchalant, qui, pour s'éviter la fatigue de conquérir ou non un nom, avait pris d'avance ses invalides dans une étude d'avoué. Il y suicidait doucement sa belle intelligence, sans autre distraction qu'un commerce de lettres assez suivi avec d'anciens compagnons qui riaient, comme lui, tout haut, de la vie et s'en attristaient tout bas. Nous partîmes ensemble pour cette Californie du Mont-Jallieu, dont il me fit l'histoire en chemin. Le premier indice du dépôt précieux avait été une plaque de cuivre trouvée à la Tour de Londres et sur laquelle se lisaient ces mots « Thesaurus est in monte salutis prope comum ». On en eut sans doute connaissance sous Louis XIII, car le régiment du Maine fut alors employé à fouiller le Mont-Jallieu. En 1735, Monsieur le duc de Chevreuse autorisa de nouvelles recherches aussi infructueuses que les précédentes. Après ces deux échecs, il y eut un long répit. Un parchemin trouvé à Paris en 1825 dans les démolitions d'une vieille église, ramena l'attention sur l'ancienne Motte d'Igé. Il se forma alors une société par action qui recommença à bouleverser la fallacieuse montagne et engloutit son capital. Vers la même époque, les Anglais, qui avaient déjà réclamé au XVIIIe siècle le droit d'y faire des perquisitions, renouvelèrent leur demande par l'entremise de M. de Talleyrand et adressèrent une pétition à la Chambre des députés qui passa à l'ordre du jour. Enfin, le père d'une de nos comédiennes les mieux connues, M. Fay, subitement éclairé par les révélations d'une femme de chambre somnambule, acheta du propriétaire le droit de recommencer les fouilles. Les indications du sujet magnétisé étaient si précises que les recherches eurent cette fois un résultat. Après des travaux qui lui coûtèrent une douzaine de mille francs, M. Fay découvrit 5 deniers et 3 clous. Plusieurs dames reprirent après lui son entreprise, et parmi elles une parente du plus fécond de nos romanciers, qui espérait retrouver au Mont-Jalut le trésor du père Grandet. Vinrent ensuite le général polonais Mitiewski, mesdames Erpin, Hersan et une nouvelle compagnie d'actionnaires. C'était cette dernière qui bouleversait en 1844 le Mont-Fallu. Comme tous les chercheurs précédents, les nouveaux actionnaires avaient à leur gage un magnétiseur et son sujet, dont les révélations servaient à diriger les fouilles des ouvriers. Je demandai à mon compagnon de route si l'on avait quelque indication sur la nature des richesses enfouies au Mont-Jalut. « Les renseignements varient, me répondit-il. On parle tantôt de 3 tonnes d'écus, tantôt de 5 coffres renfermant de l'orfèvrerie, tantôt enfin d'un Christ d'or de grandeur naturelle et des 12 statues des apôtres. Mais cette dernière version provient évidemment de quelque antiquaire qui avait lu l'histoire de Monseigneur d'Angennes, évêque du Mans. Il paraît que ce saint prélat enleva en effet à la cathédrale des disciples du Christ, figurée en argent massif, afin de les dérober au pillage des protestants et qu'il les cacha si bien qu'on ne put jamais les retrouver. Ses contemporains l'accusèrent même de se les être appropriés, ce qui fit dire, lorsqu'il assista à l'assemblée de Trente, qu'on avait au concile les 12 apôtres outre le Saint-Esprit. Du resto, on vous racontera toutes ces traditions au village de Saint-Côme, qui est le campement de nos monnaies d'ailleurs. Ce sont les seuls qui n'est point oublié, car là, comme partout, l'arithmétique a tué la légende. Les hommes sont restés aussi fous, mais leur folie calcule au lieu de rêver. Tout en parlant, nous étions arrivés au bas d'une côte où il fallut descendre de nos montures. Les derniers jours de novembre ont une beauté qui leur est propre. Ce n'est plus l'énervante mollesse de l'automne, et ce n'est pas encore la rudesse de l'hiver. Le ciel était d'un gris ferme, la terre verdoyante, çà et là. L'air avait une douceur tempérée, et le soleil illuminait la campagne d'une splendeur de fête. Nous jetâmes la bride sur le cou de nos chevaux, et les laissant aller, nous nous mîmes à gravir la montée en causant. Comme nous arrivions à mi-côte, nous aperçûmes un paysan endormi sur le revers de la douve. La réserve de son attitude et le bon ordre de son costume ne permettaient point d'attribuer ce sommeil à l'ivresse. Non, il était assis plutôt qu'étendu, la tête un peu renversée et appuyée sur un de ses bras. Son chapeau, rabattu sur les yeux, le mettait à l'abri du soleil. Il tenait de la main droite, en guise de bâton, une petite pelle de taupier. Mon compagnon reconnut le dormeur et s'arrêta. « Oui, là, me dit-il en baissant la voix, une des variétés les plus curieuses de nos bohémiens campagnards. Jean-Marie tient le milieu entre le mire, médecin, et le sorcier. Il a des secrets et vend des talismans. On se sert de lui pour guérir certaines maladies, chasser les animaux nuisibles, découvrir les sources. On dit qu'il apprend aux jeunes filles des formules pour attirer les amoureux. Elle est crédule, assure même qu'il possède l'herbe magique avec laquelle on se transporte partout en désir de femme, c'est-à-dire plus vite que la pensée. Jean-Marie, certain que le monde vous estime toujours en proportion du pouvoir qu'il vous suppose, n'a garde de le détromper. Aussi est-il consulté par tous nos fermiers, et achètent-ils chaque année quelques lobas de terre avec leur argent. Il se rend aujourd'hui chez les pratiques, oh, voici près de lui sa trousse à talisman. J'aperçus en effet sur les genoux de maître Jean un carnier doublé de cuir qu'il fouillait sans doute lorsque le sommeil l'avait surpris et qui était resté entr'ouvert. Nous pûmes faire du regard l'inventaire de ce qui renfermait. Mon compagnon me montra la baguette de coudrier pour découvrir les sources, des fragments d'aérolite qui devaient garantir du tonnerre, une noix percée servant de cage à une araignée vivante et destinée à guérir de la fièvre, un couteau de languayeur portant sur la lame le nom cabalistique de Raphaël. Il m'expliquait comment ce dernier nom, que les paysans du Midi faisaient graver sur le soc des charrues pour rendre les sillons fertiles, avait dans le Maine la propriété de guérir les porcs ladres et de les engraisser. Lorsque Jean-Marie se réveilla, bien qu'il parût d'abord surpris de nous voir et même un peu embarrassé, il fit assez bonne contenance et se redressant nous saluant. C'était un homme encore jeune, dont le visage avait cette expression de jovialité matoise habituelle aux Normands, mais plus rare chez les paysans manceaux. L'avoué lui demanda depuis quand les chrétiens dormaient ainsi au soleil, le long des berges, comme des lézards. Oh, « depuis qu'ils ne trouvent pas de lit de plume sur la grande route, » répliqua le taupier. « Oui, maître Jean oublie que la grande route est la chambre à coucher des vagabonds, » objecta mon guide. Monsieur l'avoué voit bien au contraire que c'est le rendez-vous des honnêtes gens, puisque c'est là que je rencontre, répliqua le paysan. Nous ne pûmes nous empêcher de rire. Tu es à ce que je vois en chemin pour affaires? Et le bourgeois est à la cueillette des procès? Dit Jean-Marie, qui retourna la question au lieu d'y répondre. Pourquoi non? Reprit gaiement l'avoué. Ne connais-tu pas le proverbe? Entre la Flèche et Alençon, plus de coquins que de chapons. Nous allons voir s'il ne se prépare point quelques grabuges du côté de la Motremer. Mais toi, bon apôtre, où vas-tu? À la ferme du gros François. Ah, vers Saint-Côme, à peu près. Alors nous pouvons faire route ensemble. Oh, si monsieur l'avoué trouve que je ne lui fais pas affront. Jean-Marie s'était levé et se préparait à nous suivre. Je m'aperçus alors qu'il avait laissé tomber un petit sachet rempli de blé que je lui rendis. Il le glissa au fond de son carnier et nous dit que c'était un échantillon de froment pour le gros François. Ne serait-ce pas plutôt le grain qui sert à composer les mercuriales d'avenir? Demanda l'avoué en le regardant. Le marchand de talismans sourit sans répondre. « Vous saurez que c'est un des 1000 talents de maître Jean, » continua mon compagnon. « Il excelle à deviner ce que sera le prix du blé en consultant les grains de froment. Mais j'ai été moi-même témoin, par hasard, de la confection d'une de ces mercuriales anticipées. On range pour cela, sur la pierre du foyer et devant un grand feu, 12 grains de blé choisis par un homme qui a reçu le don, comme maître Jean. Ces grains représentent les 12 mois de l'année, en commençant par celui de gauche, qui représente janvier. Lorsque le feu les a échauffés, les grains éclatent et sautent en avant ou en arrière. Dans le premier cas, le prix du blé doit infailliblement s'élever, et dans le second, il doit descendre. Je fus frappé de ce mode d'augure où la divination par le feu rappelait clairement l'ancien culte des éléments et dénonçait l'origine celtique. L'avoué à qui je communiquais mon impression se tourna vers le taupier. « Vous voyez, maître Jean, dit-il, votre cérémonie sans le païen et a dû être inventée par les druides. » « Possible, » dit tranquillement le paysan, « La sapience est le lot des vieux. Et du malin. Prenez-y garde, maître Jean. C'est, dit-on, un terrible taupier de chrétien. Jean-Marie haussa les épaules et prenant un air de tolérance philosophique. Bah, dit-il en riant. Ce sont les mal entrés en esprit qui lui en veulent d'être trop dégotés. Le diable est comme les pauvres gens. Chacun aboie après lui pour faire le bon chien. Un moment de silence succéda à cette saillie du taupier. Je pus m'abandonner à l'aise en marchant au courant de mes réflexions et de mes souvenirs. Ce n'était pas la première fois que je remarquais dans nos campagnes l'expression de cette étrange sympathie pour l'ange tombé. Que ce soit facilité d'oubli ou naïveté de miséricorde, le peuple a de tout temps montré cette tendance à plaindre le coupable qu'il voit atteint par le châtiment. Il semble qu'à ses yeux, la souffrance sanctifie tout, jusqu'à Satan. Aussi, combien de malheureux réhabilités par la tradition. Le juif errant lui-même, cette personnification de l'insensibilité éternellement punie, a éveillé la compassion du peuple. La réflexion du taupier m'avait rappelé un Goertz breton que je ne l'ai jamais entendu chanter sans émotion et qui me paraît un des plus admirables chants de la muse armoricaine, qui en a eu tant d'autres touchants ou sublimes. Il s'agit de deux voyageurs qui se rencontrent près de la ville d'Orléans et qui se saluent comme c'est l'habitude des vieillards. L'un d'eux est le juif errant, l'autre un mendiant inconnu qui demande ironiquement à Isaac où il va et pourquoi sa barbe ruisselle de sueur. Le juif errant répond « Je suis condamné par Dieu à marcher nuit et jour parce que j'ai été sans pitié pour un être souffrant. Jamais pour moi de jugement dernier. Et là, je ne mourrai pas. Ce qui fait votre plus grande épouvante serait ma plus grande espérance. Quand Dieu aura vanné le genre humain, séparant les bons des méchants, quand le ciel aura eu ses yeux crevés et que la terre sera déserte, même de la mort, je continuerai encore à errer sur la boule aveugle du monde, naufragé éternel sur ce grand vaisseau de Dieu. J'y continuerai ma course à tâtons et avec angoisse, ô Jésus, toujours marcher par la même route, toujours regarder au-dessus de sa tête dans une nuit sans fin. Mais pourquoi ris-tu, mendiant de mauvais cœur, où vas-tu? Quel est ton nom? Je me croyais l'homme le plus vieux de la terre et je vois que j'ai trouvé mon pareil. Merci de moi, répond le mendiant. Tu n'es qu'un nouveau-né. Voilà 1700 ans que tu es sur terre, moi, j'y suis depuis 5000 années. Quand Adam, notre premier père, pécha par faiblesse d'esprit, je naquis chez lui. Et depuis ses enfants m'ont toujours nourri, et je pense qu'ils le feront jusqu'à la fin du monde. Le juif errant demanda au vieux vagabond comment il se nommait, ce qu'il faisait sur la terre. Et le vieillard reprend « Mon nom est Misère. Quant à mon métier, il n'est autre que de tourmenter les hommes. Je suis la tête du mal, le père de toutes les cruautés. J'ai labouré le genre humain comme un champ de terre grasse au moyen de la faim, du froid, de la soif, de la honte. J'ai récolté en guise de gerbe des larmes, des gémissements et des malédictions. Chaque matin, je fais une promenade dans le monde. Et quand j'ai visité sans faute tous les pauvres, je m'achemine vers la porte du riche pour mordre aussi un morceau de sa chair. Avec des riches, moi, je sais faire des pauvres. Chez le gentilhomme noble depuis la création, comme chez le marchand, j'ai pour m'ouvrir la porte deux bonnes amies. On les appelle la vanité et la paresse. Ah, cet aveu du tourmenteur des hommes, le juif errant s'indigne et s'écrie: Oh, menteur méchant, je te connais, puisque tu es celui qui afflige le monde. Loin de moi, vieux affronteur, je suis fatigué. Loin de moi, car je ne puis courir pour t'éviter. Si j'étais le maître, tu serais mort, hélas, tu es encore plus malheureux que moi. Moi, je suis sur cette terre que le puni de Dieu, toi, tu lui sers de bourreau. Je ne sais si je me trompe, mais à part l'élévation poétique des détails, je trouve quelque chose de singulièrement saisissant dans cette espèce de régénération du juif maudit, frappé pour s'être montré impitoyable envers un dieu et réhabilité par sa pitié envers les hommes. Si Béranger a deviné juste en croyant que dans ce supplice, ce n'est pas sa divinité, c'est l'humanité que Dieu venge, il semble qu'après la rencontre chantée par la Goethe armoricain, le tourbillon qui emporte Isaac doit s'arrêter, car le châtiment a porté sa récolte, le mystère est accompli et la souffrance lui a révélé la compassion. Au moment même où je repassais dans ma mémoire les sublimes paroles du Goertz breton, la voix de Jean-Marie, qui nous appelait, me tira de ma rêverie. Il nous montrait à la gauche du chemin un amoncellement de terre bouleversée. C'était le mont Jalut. Lorsque nous y arrivâmes, les ouvriers travaillaient aux fouilles sous la direction d'un contremaître. Mais le magnétiseur et son sujet étaient absents. L'ancienne motte d'Igée avait été découpée par de profondes tranchées dont les déblais étaient rejetés à droite et à gauche et percés de puits destinés à l'épuisement des eaux. Elle semblait avoir littéralement changé de place. La foi, comme le dit mon compagnon, avait transporté la montagne. Ces amoncellements de terre jaunâtre et stérile, sur lesquels s'agitaient les travailleurs empressés, offraient un singulier spectacle au milieu de champs fertiles et alors déserts, où la nature préparait en silence ses riches moissons. C'était là comme dans la vie. L'homme abandonnait les biens réels pour courir après des songes. Nous interrogeâmes vainement le contremaître sur la direction des travaux et sur les espérances des nouveaux chercheurs de trésors. Soit ignorance, soit discrétion, il ne sut rien nous apprendre. Maître Jean nous conseilla de continuer jusqu'à l'auberge de Saint-Côme, quartier général des entrepreneurs, où l'on pourrait, selon toute apparence, nous renseigner plus exactement. Nous nous décidâmes à y aller dîner, et après avoir pris congé du taupier, qui devait quitter là le grand chemin pour s'engager dans la traverse, nous nous remîmes en selle et nous gagnâmes le bourg au galop. Chapitre 2 Le rouleur. L'arrivée de deux voyageurs bourgeois eut produit dans beaucoup de villages une certaine sensation, mais les habitants de Saint-Côme étaient blasés sur de pareils événements. Le bruit de nos chevaux n'attira même pas l'aubergiste sur le seuil. Il fallut l'appeler. Il va recevoir la bride de nos montures avec une dignité indifférente. Mon compagnon, qui voulait nous relever dans son opinion, passa à la cuisine où il fit main basse sur tout ce qu'il y avait de présentable dans le garde-manger. L'effet de réaction ne se fit pas attendre. Notre hôte, convaincu que des gens qui dînaient si bien devaient avoir droit à tous ses respects, mit le bonnet à la main et nous fit entrer dans le salon où le couvert était mis. Comme les préparatifs culinaires demandaient un peu de temps, il voulut bien, pour adoucir les ennuis de l'attente, de vous accorder les agréments de sa conversation. Nous apprîmes par lui que les directeurs de fouilles du Mont Jallu devaient arriver dans quelques jours. Il ajouta que par malheur il n'y avait point de dames partant, pas de bal, de collation, ni de cavalcade. L'aubergiste de Saint-Côme ne pouvait perdre le souvenir des fêtes données par les entrepreneuses précédentes, dont il nous parla avec des éclairs d'admiration et des soupirs de regret. J'en vins à demander quels avaient été les résultats des premières fouilles. Le flot de paroles s'arrêta, et comme le contremaître du Mont Jallu, notre hôte s'enveloppa dans une prudente discrétion. Je voulus plaisanter les folles espérances des chercheurs d'or. L'aubergiste prit aussitôt l'air d'une vieille prude devant qui on parle d'amour. J'insistai. Il rompit l'entretien en prétextant quelques additions à faire au couvert. Je fis remarquer cette singulière réserve à mon compagnon. « Oh, vous la trouverez, me dit-il, chez tous les habitants du pays auxquels vous parlerez des trésors du Mont Jallu. Ils connaissent trop bien les avantages d'une pareille croyance pour aider à l'ébranler. Personne ne tourne en ridicule la montagne qui enrichit. Ce qui est d'ailleurs une fiction pour les autres et pour eux une vérité. La modigée contient réellement un talisman sans prix, et c'est cette ombre de trésor qui attire ici les écus des spéculateurs crédules, comme la fameuse montagne d'aimants des mille et une nuits attirait autrefois les vaisseaux. Tout compte fait, cette colline a déjà rapporté aux gens de Champessant et de Saint-Côme plus de 200 000 francs. Le moyen de traiter légèrement une pareille voisine. Oh, ces bienfaits sont encore peu apparents, repris-je en m'accoudant dans la fenêtre qui était ouverte. Voyez ces ruelles fangeuses, ces maisons lézardées, ces pauvres enfants qui courent nu-pieds sur les cailloux du chemin. Je ne connais rien de plus propre à faire mentir les idylles qu'un village de France. Pas d'arbres pour ombrager les seuils, pas une fleur pour égayer les fenêtres, aucun témoignage de cet amour de l'homme pour sa demeure qui est le premier symptôme du bonheur domestique. Ici, la vie est une halte dans la misère et dans la laideur. Oui, c'est un côté de l'aspect, dit mon compagnon en riant. Mais il y en a un autre, comme pour toute chose. Vous connaissez le mot de Madame de Staël, qui entendait faire une remarque pleine de justesse. « Oh, que cela est vrai !» s'écria-t-elle. « Cela est vrai !» comme le contraire. Nos villages français sont inhabitables, sans doute, mais en revanche, ils sont presque toujours pittoresques. Si la civilisation y perd, le paysage y gagne. Et je connais beaucoup d'artistes qui pensent encore que le monde a été fait surtout pour être peint. Ôtez-en les maisons croulantes, les rues en zigzag et les enfants à haillons. Ils crieront que l'art est perdu. À leur point de vue, cette place de village est une magnifique étude flamande et ils donneraient tous les cottages de l'Angleterre pour le seul coin de grange où vous voyez ce chaudronnier ambulant. Mon regard s'était tourné vers l'homme que l'avoué me désignait. Le chaudronnier se tenait assis presque sous notre fenêtre, à l'entrée d'un appentis en ruine. Ses outils étaient dispersés autour d'un grand bassin qu'il venait de réparer pour l'aubergiste, il se préparait à dîner d'un morceau de pain noir et d'un oignon. Son costume était pauvre et usé. Ses cheveux gris, coupés carrément au-dessus de ses sourcils noirs, descendaient des deux côtés d'un visage bistré auquel il servait de cadre. Maigre, agile et visiblement endurci par la pauvreté, le chaudronnier avait dans toute sa personne quelque chose d'âpre, de persistant, qui appelait et retenait l'attention. Nous allions quitter la fenêtre après avoir observé pendant quelques instants cette étrange figure, lorsque tout à coup nous vîmes le chaudronnier tressaillir, se relever d'un bond, courir vers une ruelle qui s'ouvrait à quelques pas et s'y élancer. Nous cherchâmes en vain des yeux ce qu'il avait pu percevoir. La ruelle semblait silencieuse et déserte. Le chaudronnier en atteignit l'extrémité, regarda à droite et à gauche, monta sur le mur d'appui d'un petit jardin pour mieux voir, puis revint d'un air pensif s'asseoir sous le hangar où nous l'avions remarqué d'abord. En ce moment, l'aubergiste entra. Nous lui demandâmes quel était cet homme. « Le chaudronnier, dit-il. « Parbleu, mais il faudrait le demander au diable. Plusieurs fois, j'ai voulu causer avec lui, mais quand on lui parle, c'est comme si on criait dans un puits. Rien ne répond. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'on le nomme Claude, et plus souvent le rouleur, parce qu'il court toujours le pays. On est certain de le voir arriver ici toutes les fois qu'on fouille la butte. Aussi le regarde-t-on comme un chercheur de trésors. Il paraît même que l'an dernier, il s'est laissé payer à boire par les gars du Chêne Vert, et comme le Cid lui a desserré les dents, il leur a raconté des merveilles. L'avoué et moi, nous échangeâmes un regard. La même idée nous était venue en même temps. Il fallait faire parler Claude à tout prix. Nous sortîmes sous prétexte de visiter nos chevaux, et après avoir jeté un coup d'œil dans l'écurie, nous nous approchâmes sans affectation du chaudronnier. Plongé dans une sorte de rêverie chagrine, il ne s'aperçut point de notre approche. Mon compagnon le salua avec cette aisance joviale qui est le privilège de certains caractères. Le rouleur ne répondit point tout de suite. Et quelques instants se passèrent avant que la question qui avait comme un vain bruit frappait son oreille, parut arriver jusqu'à son esprit. Il tressaillit alors, se retourna et rendit le salut avec réserve. « Eh bien, les affaires vont-elles, mon brave ?» demanda l'avoué. « Y a-t-il beaucoup de chaudrons percés dans le pays ?»« Oh, monsieur voit qu'il y en a assez pour faire vivre un homme !» répliqua froidement l'ouvrier. « Parbleu, vous êtes le premier à qui j'entends faire un pareil aveu !» reprit mon compagnon. « D'habitude, les rouleurs crient toujours misère !» Claude garda le silence. Je lui demandais s'il ne trouvait pas bien rude de vivre ainsi, toujours errant par les routes solitaires, subissant tous les caprices du ciel et changeant d'hôtel chaque soir. « Quand on n'a personne nulle part, on est chez soi partout, » répondit-il. « Ah, si vous voyagez toujours, les pauvres gens sont obligés d'aller où il y a de la peinture et le soleil. Mais quand vient la vieillesse ou la maladie ? Ben, on fait comme le loup, on se couche dans un coin et on attend. » Les réponses de Claude avaient une brièveté pittoresque qui n'était point nouvelle pour moi. J'avais déjà remarqué cette poétique originalité de langage sur nos montagnes, le long de nos dunes, dans nos forêts, en interrogeant les pâtres, les gardiens de signaux et les bûcherons. C'est un caractère commun à tous les hommes habitués à vivre dans la solitude, sans autres interlocuteurs qu'eux-mêmes. Il semble qu'alors leurs pensées, comme ces vagues recueillies dans les creux de nos rochers, se condensent lentement en cristaux. Leur parole, selon l'expression des matelots, apprend à naviguer au plus près, et non sans profit. Car si les frottements qui naissent des relations sociales aiguisent l'intelligence et lui arrachent de fréquentes étincelles, ils servent rarement à la rendre plus nette ou plus vigoureuse. Notre improvisation de toutes les heures sème les idées à peine écloses, comme ces fleurs stériles que le vent secoue des pommiers, tandis que le silence laisse aux idées du solitaire le temps de s'épanouir sur chaque rameau de l'esprit, d'où ne se détache que parfaite et comme un fruit mûr. Claude semblait être un de ces parleurs discrets qui n'ouvrent la bouche que pour dire quelque chose, et qui, bien que son langage ne fût point dépourvu d'une certaine prétention sentencieuse, il avait éveillé assez vivement notre intérêt pour nous donner le désir de prolonger la conversation. L'avoué la soutint quelque temps avec sa verve ordinaire, mais le rouleur continua à répondre rigoureusement, sans fournir aucune occasion de la détourner vers le sujet dont nous désirions surtout l'entretenir. L'arrivée d'une voisine qui venait s'acquitter envers Claude et jeter quelques sous dans le chaudron posé près de lui offrit enfin à mon compagnon une transition inattendue. « Est-ce là toute votre recette à Saint-Côme ? » demanda-t-il au voleur. Celui-ci répondit affirmativement. « Pas mieux. Vous serez alors quelque temps avant de faire fortune, » reprit l'avoué. « Et votre chaudron ne vaut pas celui de la croix de la barre. » Je demandai ce que c'était que cette croix. « Oh, encore une de ces cassettes du diable, » répliqua-t-il. « Oh, il paraît qu'en creusant sous le sol, au coup de minuit, on trouve une grande bassine pleine de pièces d'or. Mais, comme elle est arrachée à la terre par des racines magiques, personne jusqu'ici n'a pu l'enlever. Le rouleur doit en avoir entendu parler. » Celui-ci fit un signe affirmatif. « Oh, c'est du reste la vieille histoire que se raconte partout, » continua mon guide. « Si l'on en croit la tradition, nos mendiants meurent de faim sur des millions, et Maître Claude a sans doute trouvé les mêmes croyances dans ces montagnes d'Auvergne. » « Ah non, je ne suis pas né en Auvergne, » dit laconiquement le chaudronnier. « Où donc alors ? » demandai-je. « Dans le Berry. » L'avoué, qui avait longtemps habité le Berry, fit un mouvement. « Ah, vous êtes berrichon !» s'écria-t-il. « J'aurais dû le deviner à votre accent. » « Par ma fiou, mon pauvre homme topé-là, moi aussi je somme quasi mordiaux. » Le rouleur, qui épluchait son oignon, tressaillit et s'arrêta. « Monsieur parle la langue, » dit-il en reprenant, sans s'y penser, la prononciation du pays. « Oui, ben, fiston, » répliqua l'avoué en riant. Et afin d'appuyer son dire, il se mit à chanter sur un air de bourré, avec les portées de voix et les cadences prolongées des bergères du Morvan. « Vive le loup, ma chienne Garelle, vive le loup quand il est saoul. Laisse-le là, ma chienne Garelle, laisse-le là quand il est plat. » Le rouleur avait relevé la tête. Son front plissé s'épanouit. Une lumière sembla passer au fond de ses yeux sombres et ses lèvres se détendirent. À la fin de l'air, il se leva comme emporté par les souvenirs qui se réveillaient en lui et poussa le loup national qui termine toutes les bourrées. « Vous ne vous saviez pas en pays de connaissance, » lui dis-je, enchanté du hasard qui venait de rompre la glace entre nous. « Le diable m'estringole, si je l'aurais cru !» s'écria-t-il. « Et où donc, monsieur, est-il sur la coutumance dans le Morvan ?»« Oh, j'ai habité 2 années entre Morignon et Cagogne, » reprit l'avoué. « Oh, dans une de ces fentes de montagne que vous appelez des serres, tout près de lui cendré. » « Oh yeah, c'est juste où je suis né !» interrompit le rouleur. Et nous allions passer l'un près de l'autre, sans parler des bandes de là-bas, ajouta mon compagnon. Oh, j'en aurais eu grand rancœur, dit Claude. Alors, à table, m'écriai-je, voici l'hôte qui nous prévient que le dîner est servi, et l'on cause toujours mieux entre la fourchette et le verre. Le chaudronnier hésita d'abord, soit embarras, soit défiance. Il voulut s'excuser, mais nous refusâmes de l'écouter. Oh, ça, vous viendrez, s'écria l'avoué. Je veux repâter, bagouter, comme on dit à Louis Cendré. Marchons, mon vieux, et s'il vous faut de la musique, je vous en dirai la romance du seigneur de Saint-Pierre de Mortier à la jolie garde de moutons qui faisait, comme vous, la paquenne. Dites-moi, ma brunette, quel plaisir avez-vous, seul sous la courette à la merci des loups? Laissez dessous l'ombrage les brebis du village, allons quitter les champs là-bas vers ces ombrelles, vous serez demoiselle dans mon château plaisant. Cette bergerie, chantée comme la précédente avec l'accent des patours de Berry, acheva de mettre en joyeuse humeur le chaudronnier, qui nous suivit enfin en riant et prit place à table entre nous deux. Une fois arrivé là, ce ne fut plus le même homme. Les premiers soupçons dissipés, Claude passa, comme tous ceux qui se sont d'abord tenus sur la réserve, de l'extrême contrainte à l'extrême expansion. Les souvenirs du Morvan et le vin de l'aubergiste aidèrent surtout à cette métamorphose. Ce fut le « Sésame, ouvre-toi » devant lequel tombèrent tous les verrous qui avaient jusqu'alors fermé les portes de cet esprit. Là où j'avais seulement espéré un conteur, je trouvais un type aussi intéressant que singulier. Les aveux, d'abord entrecoupés de réticences, se complétèrent insensiblement. À chaque couplet de l'avoué, la bonne humeur du rouleur semblait se transformer en une confiance attendrie. Enfin, nous sûmes toute son histoire. Claude était un pauvre champi, ou enfant trouvé dans les champs. Adopté par un paysan de la montagne, il avait passé ses premières années dans les brandes à garder les brebiailles. Là, accroupi avec les autres petits patours, devant un feu de ronces, il avait entendu parler sans cesse de la poule d'or qui se cachait dans les trênes avec ses 12 poussins, et des épargnes enfermées par les fées sous les grandes pierres druidiques. Dès qu'il avait pu comprendre, ses opulentes visions avaient hanté sa pauvreté. Pieds nus et vêtus d'une biode en lambeaux, il errait dans les friches, insensible à la pluie, au vent, à la froidure. Il frappait de sa houlette ferrée les touffes de bruyère. Il retournait les pierres moussues, il regardait au jour failli vers les ravines qu'habitaient les fades, espérant toujours qu'un hasard bienfaisant lui apporterait la richesse. Enveloppé dans ce songe d'or, il atteignit le moment où les fils de son maître, devenus assez grands pour garder le troupeau, le forcèrent à chercher fortune ailleurs. Un chaudronnier nomade s'était alors offert à le recueillir, et Claude avait parcouru avec lui les campagnes, apprenant son métier tellement quellement, et retrouvant partout cette même histoire de trésor caché, rêve éternel de la misère qui ne veut point désespérer. Ainsi entretenu, ses impressions d'enfance s'était fortifié, agrandi. Lorsque la mort de son second maître le laissa encore une fois seul, il continua sa vie vagabonde et s'enfonça de plus en plus dans les recherches qui l'avaient préoccupé tout enfant. Les explications dans lesquelles Claude entra à la suite de ce récit jetaient un singulier jour sur l'espèce de mission qu'il s'était donnée à lui-même. Le rouleur n'était point le vulgaire quêteur de trésors que j'avais cru d'abord, mais une sorte d'alchimiste populaire qui, à l'exemple des poursuivants du grand œuvre, avait soumis la recherche des richesses cachées à cet art cabalistique. Je fus singulièrement étonné de la force de cerveau qu'il avait fallu à cet homme ignorant pour systématiser les traditions et en faire un corps de science. Ce travail lui avait coûté 20 ans d'enquête, de réflexion et d'essai. Il y avait mis cette patience passionnée des vrais fidèles, dont le courage, loin de se briser aux obstacles, s'y fortifie et s'y aiguise. Voici rapidement l'idée de sa théorie, née de la comparaison des différentes croyances populaires. Il y avait 3 espèces de trésors. Ce qui appartenait aux vilains, c'était le nom que Claude donnait aux démons. Ce qui appartenait à un trépassé, et ce que gardaient les génies, les fées, ou les morts ajournés, c'est-à-dire destinés à une résurrection terrestre. Les premiers comprenaient toutes les richesses enfouies sous la terre et restées 100 années sans voir l'œil du ciel. Les seconds, celles qu'on avait cachées en égorgeant un être vivant et qui étaient gardées par le fantôme de la victime. Les troisièmes, enfin, celles que des esprits ou des hommes puissants avaient autrefois entassées dans de mystérieuses retraites. La recherche et la conquête de chacun de ces trésors étaient soumises à différentes conditions. Pour ce que possédait Satan, il fallait un pacte. On se rendait pour cela dans un carrefour hanté où l'on évoquait Robert au moyen de certaines conjurations. S'il venait à paraître, il fallait lui adresser aussitôt la parole sous peine d'être emporté par lui. Les conventions du pacte se réglaient ensuite et on les signait de son sang. Outre les richesses enfouies dont on obtenait ainsi la connaissance, le diable pouvait accorder certains talismans. Nous avons parlé ailleurs du cordeau qui permettait de soutirer le lait et le blé du voisin. Les paysans du Périgord citaient également le mandagoro, qui n'est autre que la plante magique appelée dans les traditions allemandes Gargenmannheim, petit homme de potence. Lorsqu'on l'arrache, ses racines poussent des cris. Mais si une fois hors de terre on les lave dans du vin blanc, comme un nouveau-né, elles répondent à toutes les questions et prédisent l'avenir. En Lorraine et en Alsace, on peut obtenir du diable le ducat d'incubation, qui se double toujours. D'ailleurs, il donne à ses adeptes le chat noir classique, la bourse de Fortunatus, ou le tonneau qui ne se vide jamais. Mais la fortune acquise par ces moyens entraîne toujours nécessairement la perte de l'âme. Restent les trésors appartenant aux génies, aux fées et aux morts ajournés. Ceux-ci s'ouvrent plus aisément. Il suffit souvent pour y puiser d'un hasard, d'une heureuse rencontre ou d'un caprice des possesseurs. La science des chercheurs de trésors indique au reste plusieurs moyens de trouver et d'acquérir les dépôts précieux. Le premier est la magie et l'étude des incantations. Malheureusement, cette branche de l'art est depuis longtemps négligée. Claude nous avoua qu'il y avait peu de choses à en attendre. On pouvait encore vaincre les charmes qui nous dérobent l'argent caché en faisant consentir un prêtre à dire une messe à rebours. Mais tous se refusaient à ce sacrilège. Le plus sûr était donc de mettre à profit ce que l'on appelait dans certaines provinces la trêve de la nuit de Noël. Une tradition répandue dans la chrétienté avait fait du moment où naquit le Sauveur une sorte de suspension à toutes les lois du monde connu et du monde invisible. Il y avait une halte universelle dans la méchanceté, dans l'impuissance et dans les châtiments. Le cœur de l'univers n'était plus oppressé de son immense angoisse. La création entière poussait un soupir de bonheur. Cette trêve de Dieu durait pendant tout l'évangile de la messe de minuit. C'était alors que les menhirs, les pierres fées, allaient boire la mer et laissaient à découvert leurs trésors, que les vouivres et les dragons déposaient l'escarboucle qui les couronne pour se baigner aux fontaines, que les bons et les mauvais esprits oubliaient l'exercice de leur puissance, que les animaux eux-mêmes, sortant du silence infligé par Dieu depuis la trahison du serpent, recouvraient la parole. Les cavernes les plus secrètes montraient leurs entrées. La mer laissait voir au fond de ses abîmes. Les montagnes ouvraient leurs flancs. Et la terre, tressaillant d'allégresse, offrait aux hommes tout ce qu'elle enferme comme un festin de réjouissance. Le chercheur de trésors devait profiter de ce moment pour puiser aux mille sources des richesses cachées. Mais il lui fallait pour cela, outre la connaissance des opulentes cachettes, beaucoup d'audace, de promptitude et d'adresse, car au premier son de la clochette qui faisait entendre après l'évangile, la trêve expirait. C'était le canon de la messe de minuit qui annonçait la reprise de la grande bataille du monde. Les esprits malfaisants reprenaient toute leur colère et malheur à qui se laissait surprendre par eux, car ils devenaient leur proie jusqu'au jugement. Depuis 20 années, Claude cherchait à profiter de cette trêve de Dieu sans avoir pu trouver encore l'occasion favorable. Mais cet insuccès n'avait point ébranlé sa foi. À chaque Noël perdu, il ajournait ses espérances jusqu'à la Noël suivante et attendait patiemment en comptant les jours. Certain d'arriver à une de ces fabuleuses opulences que la pauvreté seule sait rêver, il supportait ses privations avec une sorte de dédain inattentif. Sa misère ne lui semblait qu'une attente. C'était la nuit passée dans la cabane du charbonnier par le roi qui va prendre possession d'un trône. Je voyais pour la première fois un de ces hommes qui marchent enveloppés dans leur idée comme dans un nuage. Monomane, digne de pitié ou d'admiration, suivant le but auquel il tende, mais toujours fait pour saisir l'âme parce qu'il la glorifie. Qu'est-ce en effet que leur folie, sinon une victoire de la volonté sur les instincts? S'abandonner au courant des jours en profitant de ce que chaque vague nous apporte, c'est jouer simplement, sur l'océan humain, le rôle d'une épave. Mais choisir sa direction sur cette mer et cingler vers un seul but, c'est imiter le vaisseau qui obéit à l'intelligence et surmonte par elle tous les efforts des flots. Le chaudronnier nous raconta plusieurs de ses tentatives, dont quelques-unes, suivant lui, avaient failli réussir. Il nous parla de ses projets, de ses espérances. En nous les détaillant, son œil sombre avait des scintillements, des lèvres souriaient d'une joie anticipée, un frémissement parcourait ses doigts, comme s'ils eussent déjà senti le contact de l'or. « Faut savoir attendre l'occasion, » ajouta-t-il en ayant l'air de penser haut, tout à l'heure encore. « J'ai eu un signe. »« Ah oui, quand vous avez couru vers la ruelle, » il fit un mouvement. « Ah, vous étiez là, » s'écria-t-il. « Alors vous savez s'il a pris par la petite sente avant de disparaître. » « Mais qui cela ? Vous n'avez donc rien vu ? Rien que votre empressement à poursuivre un objet invisible. » Il se mordit les lèvres et quitta brusquement la table. J'allais lui demander l'explication de ses paroles. L'entrée de l'aubergiste nous interrompit. L'heure que nous avions indiquée pour notre débat était arrivée, et l'aubergiste venait nous demander s'il fallait brider les chevaux. Cette apparition acheva de rompre le charme qui nous avait gagné la confiance de Claude, car il en est des cœurs fermes comme des trésors dont il venait de nous raconter l'histoire. Pour y lire, il faut le hasard de l'heure et de la rencontre. Ouverts un instant, ils se referment bientôt tout à coup et sans retour. Le chaudronnier parut se réveiller. Il se leva en nous jetant un regard inquiet, comme un homme qui s'aperçoit qu'il a rêvé tout haut. Nous essayâmes de le retenir, mais il nous déclara qu'il s'était déjà trop attardé et voulait arriver avant la nuit à un hameau qu'il nous désigna. L'avoué, qui devinait mon désir de prolonger l'entretien, prétexta quelques ruines à visiter de ce côté et décida que nous prendrions la traverse avec le chaudronnier. Celui-ci ne put faire aucune objection, mais il fut aisé de voir que notre compagnie l'embarrassait. Il revint à sa réserve défiante et reprit le ton bref de notre première entrevue. La route que nous suivions n'était tracée que par de profondes ornières indiquant la direction du village qu'elle desservait. Elle traversait tantôt des terres cultivées, tantôt des friches bordées çà et là par un vieux orme ou quelques touffes de houx. De temps en temps, nous apercevions dans les champs des femmes occupées aux semailles. Derrière elles volaient des nuées d'oiseaux cherchant la pâture et que chassait la herse des laboureurs. Tous s'arrêtaient pour nous voir passer. Quelques-uns nous jetaient un souhait de bienvenue, puis nous les voyions reprendre leurs travaux. On n'entendait ni bêlement de troupeaux, ni chants de pâtres, ni bourdonnement d'abeilles, rien, enfin, de cette rumeur de cette vie qui, dans tous les jours d'été, fait bruire la campagne. Cependant, ce silence ne ressemblait nullement à la mort. C'était la beauté du calme et du repos après celle du mouvement et du bruit. Nous cédâmes insensiblement, mon compagnon et moi, à l'influence de cette grave sérénité. Nos questions rouleurs devinrent plus rares, et nous avions laissé tomber la conversation lorsque nous arrivâmes près d'une ferme que l'avoué reconnut pour celle du gros François. Un groupe de paysans, armés de bêches et de pioches, était arrêté à l'extrémité du petit terrain qui faisait face à l'habitation. Parmi eux s'en trouvait un qui semblait écouter des demandes et des indications. Il tenait à la main une baguette de coudrier à deux branches qu'il présentait aux différentes aires de vent, comme s'il eût voulu reconnaître une direction. « Ah, mais c'est le taupier !» m'écriai-je en reconnaissant Maître Jean. « Non, pas pour l'heure, » répliqua ironiquement Claude. « Il vient de changer de métier. Voyez-vous pas qu'il tient une baguette d'un rond ? Il va chercher une source ? Ah, moi que nous lui faisions peur !» dit le chaudronnier. Je lui imposai vivement silence de la main. Maître Jean ne nous avait point aperçus, et nous nous trouvions derrière une haie de buis où il était facile de se cacher. Je me baissai de manière à tout voir sans être vu, et mes compagnons en firent autant. Le sourcier prit la baguette par les deux branches de la fourche, et la tenant devant lui, il avança lentement de notre côté. Les paysans suivaient, attentifs à tous ses mouvements. Après avoir fait quelques pas, Jean s'arrêta. « La baguette a-t-elle parlé ? » demandèrent-ils. « Non, » dit le sourcier en continuant sa route. « C'est la branche droite qui a tourné dans ma main. Les branches n'annoncent que le métal. La droite est pour le fer, la gauche pour l'or. » Et comme les paysans, surpris, regardaient autour d'eux sans rien voir et semblaient douter, il entr'ouvrit avec le pied une touffe d'herbe et y montra un fer de cheval. Tous le regardèrent émerveillés. Maître Jean ne néglige rien, me fit observer l'avoué. Il a d'avance préparé la mise en scène et les accessoires. Cependant, le sourcier s'était remis en marche. Il arriva à quelques pas du lieu où nous nous trouvions cachés, sembla hésiter, puis s'arrêta. Les paysans l'entourèrent avec une attention anxieuse. La baguette de Caudrier sembla osciller, se tordit lentement et finit par se tourner vers un tapis de plantes grasses qui veloutait les alentours d'un buisson d'osier. « Creusez ici, les gars !» s'écria Jean en frappant le sol du pied. « Il y a de l'eau sous mon talon !» Les bêches et les pioches se virent aussitôt à l'œuvre et nous entendîmes bientôt les travailleurs pousser un cri de joie. L'eau commençait à sourdre dans la tranchée. Nous pensâmes qu'il n'y avait plus d'inconvénient à nous montrer et nous rejoignîmes le sourcier auquel j'adressais mes félicitations. En apprenant que nous avions tout vu, il parut d'abord embarrassé, mais il se remit aussitôt et nous répondit sur le ton demi-plaisant dont j'avais été déjà frappé lors de notre première rencontre. Quant à Claude, il avait tout observé sans rien dire et continuait à garder un silence railleur. « Bien voilà un talisman dont vous nous aviez point parlé, lui dis-je à demi-voix, en montrant la baguette que le sourcier tenait encore. Bon, il est aisé de cacher un vieux fer dans une touffe d'herbe et de trouver de l'eau où poussent des osiers, répondit le chaudronnier. Ainsi, vous ne croyez pas à la verge du Caudrier, repris-je en souriant. Il haussa les épaules. Quoi qu'on soit pauvre rouleur, on a pourtant une raison, dit-il avec dédain. Cependant, Jean-Marie avait aperçu Claude, qu'il salua par son nom. Il ne sembla même pas que son ton avait un accent de déférence, presque respectueuse. Et je me demandais si, pour compléter ces exemples de contradictions, l'explorateur ironique de tant de superstitions partageait par hasard celle de la foule à l'endroit des trésors. Nous continuâmes à suivre la traverse avec nos deux compagnons. Maître Jean avait réclamé les services du chaudronnier ambulant pour quelques réparations indispensables, et il le conduisait à sa closerie, peu éloignée de la moite aigée, dont nous commençâmes à revoir les sommets écrêtés.